Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Fabrice Florent est père de deux filles de 15 et 13 ans. Lorsque son ex-femme est tombée enceinte de sa première fille, il a décidé d'ouvrir un blog dans lequel il racontait son expérience de futur papa. On était en 2006, il était l'un des pionniers à parler des sujets de parentalité sur le web. En parallèle de son premier enfant, il a créé le média Mademoiselle, un magazine féminin et féministe en ligne qui s'adresse avant tout aux jeunes femmes. Fabrice Florent, c'est aussi l'homme qui se cache derrière les podcasts Histoire de daron, Histoire de succès, Histoire de mec et Histoire d'argent, dans lesquels il invite des personnes à parler d'elles, de leur parcours, et ses contenus sont ma foi très qualitatifs. Et enfin, Fabrice Florent, c'est une grande inspiration pour moi depuis près de 15 ans. Ses contenus m'ont aidé à devenir celle que je suis aujourd'hui, tant dans mon féminisme que dans ma parentalité, en passant par ma vie professionnelle. Alors il était évident qu'un jour, je l'inviterais sur Prenons un café. Et quelle rencontre ! Avec Fabrice, on a parlé de paternité du côté émotionnel de la force, de regrets paternels, d'accompagnement de nos enfants dans la vie et de santé mentale de nos enfants et adolescents, mais aussi du côté des parents. Tout un programme que je suis ravie de te présenter aujourd'hui. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café.
Voilà, comme ça. S'il y a des trucs intéressants qui passent là maintenant, ça peut être intéressant. Et en fait, ouais, c'était ça le but. Et aussi parce que je t'avais contacté il y a longtemps maintenant, c'était il y a un peu plus d'un an, je crois, où tu avais fait l'épisode avec ta fille qui avait demandé à entrer en hôpital psychiatrique. Et en fait, moi, les sujets de santé mentale, c'est quelque chose de très important pour moi. Et j'ai envie qu'on parle de la santé mentale des adolescents, en fait. Peu importe la raison, enfin, voilà, ça, c'est propre à toi et à ce que tu voudras dire. Mais moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai l'impression que beaucoup de parents négligent. Enfin, tu sais, quand t'es parent, tu fais attention à la santé physique, au bien-être physique de tes enfants. Mais en fait, on oublie un peu trop la santé mentale. Et moi, je trouve ça intéressant, justement, de montrer qu'il ne faut pas l'oublier.
Mais c'est pas qu'on l'oublie, je crois que c'est un tabou.
Ouais.
Tout simplement. C'est juste que pour encore plein de gens, alors, ça se démocratise de plus en plus, mais je crois que pour de plus en encore plein de gens en France, aller chez un psy, c'est être fou. Et je crois que ça a beaucoup évolué depuis 10 ans, mais à mon avis, il y a encore... Enfin, c'est une vraie défaite, je crois, ou un échec pour des parents de se dire, OK, il faut que mon enfant aille chez le psy ou la psy. Et puis soi-même, en tant que parent, on ne prend pas vraiment soin. En tant que parent, en tant qu'adulte, ouais, on ne prend pas vraiment soin de notre santé mentale non plus. Donc, c'est un peu un cercle vicieux, quoi. Moi, ce que je me dis, c'est vraiment, je vois le truc venir, et chez tout le monde, hein, la fameuse vague finale du Covid, en fait, ça va être la santé mentale qui ravage déjà, et qui va ravager le monde entier, quoi, tu vois, parce que vraiment, ça, je crois que ça a un impact dont on ne mesure pas encore fondamentalement toutes les conséquences, quoi. Et ça va être vraiment, pour moi, des impacts très long terme, quoi. Donc, il va falloir faire gaffe à ça, et bah, tant mieux que tu prennes la parole dessus. Et pour moi, c'est surtout, ouais, effectivement, la santé mentale des enfants. Parce qu'en fait, tu vois, tu dis les ados, mais pour moi, ça commence même encore plus tôt, quoi. Parce que quand tu commences à aller chez la psy vers 12, 13, 14 ans, que t'as déjà un mal-être en toi qui est costaud, bah en vrai, c'est pas non plus déconnant de te dire que vers 8, 9, 10 ans, tu vois, quand les enfants ont peut-être besoin... Enfin, en fait, oui, plus tu démarres tôt, pardon, dans la vie avec des clés, plus tu sais les utiliser tôt, quoi. Donc,
bon, on va commencer.
Comme tu veux.
Bonjour Fabrice.
Salut.
Bienvenue sur Prenons un café.
Et bien merci.
Ça me fait bizarre d'entendre ta voix pas dans mes oreilles, puisqu'en fait je l'entends souvent, mais avec l'image devant moi.
C'est toute la magie et le mystère du podcast audio.
C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ?
Bien oui, je m'appelle Fabrice Florent. Florent, c'est mon nom. J'ai 44 ans, j'ai deux grandes filles qui ont 15 et 13 ans. J'ai fondé ce média web qui s'appelle Mademoiselle en 2005, que j'ai revendu en 2020. Et aujourd'hui, je crée des contenus, en fait, donc d'une manière générale, surtout des podcasts pour l'instant. Mais je me lance sur YouTube très bientôt en mode bonsaï, allant faire de la vidéo pour voir un peu ce que ça donne, quoi. Donc voilà.
Trop bien. Je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours voulu être père ?
Ah non. Non. Non, clairement pas. En revanche, j'ai toujours aimé les enfants, tu vois, être au contact des enfants, ça a toujours été un truc. Mais les enfants que je choisissais avec qui je choisissais d'être, tu vois, vraiment, c'était très important. Donc, par exemple, j'ai fait mon BAFA, tu vois, quand j'avais 15-16 ans, et je me suis retrouvé à être animateur de BAFA. Et c'était trop bien. J'ai notamment été moniteur pour des gamins de 7-8 ans. Et assez rapidement, je me suis rendu compte, en fait, que c'était super les enfants comme ça de 7-8 ans, mais que les plus grands, ça m'intéressait plus. Et donc, je me suis retrouvé à être l'année suivante animateur d'ado, alors que j'avais 17 ans et j'étais animateur de gamins qui avaient 15-16, quoi. Donc, c'était marrant. Là, pour le coup, tu vois, j'avais vraiment un vrai lien. Je trouvais ça vachement plus cool parce que, bah, déjà, ils sont autonomes et ils sont indépendants. Et je me souviens que la première année, on allait faire une visite au zoo d'Anvers avec les mômes et j'en avais 7. Et toute la journée, je comptais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'étais tellement flippé d'en perdre un. Et en fait, après, quand tu fais des sorties avec les ados, bah, c'est pas pareil. Tu leur dis, bon, quartier libre, rendez-vous dans une heure au même endroit, machin. Bon, OK, après, il faut faire gaffe à ne pas en laisser un de côté non plus. Mais en tout cas, il y a une forme de liberté qui me convient beaucoup plus. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte à quel point les enfants, notamment en bas âge, c'était quand même une sacrée tannée en termes de liberté, etc. Je me souviens notamment qu'on partait en vacances avec des amis. Nous, on était encore jeune adulte, quoi, tu vois. J'ai rencontré mon ex-femme aujourd'hui, et qui est aussi la mère de mes enfants, mais on était tout jeunes, on avait genre 17 et 15 au lycée. On est partis pendant quelques années en vacances avec des couples d'amis. Et il y avait un môme qui ne voulait pas boire son lait le matin. Et en fait, toute la discussion de tous les matins, de 9h à 12h, c'était « il faut qu'il boive son lait ». Et moi, j'étais là, mais on pourrait peut-être juste le laisser boire son lait ou pas, s'il veut, et continuer, nous, à vivre notre vie en tant qu'adulte, ça serait cool. Mais non, c'était pas possible. Donc, et là, je me suis dit, mais c'est insupportable. Si c'est ça d'avoir des enfants, moi, ça ne m'intéresse pas. Et tu vois, autant je crois toujours eu ce truc de transmission et tout, autant l'idée de le transmettre à des enfants à moi, à l'époque, ça ne m'intéressait pas forcément. Mon ex a plutôt bien joué le coup, j'ai envie de dire, puisque à un moment donné, elle a fini par me dire, écoute, moi, je crois que c'est un projet que j'aimerais avoir et tout, mais prends le temps, le jour où ça te dira, ça sera cool, mais écoute, voilà, c'est à toi de voir, la balle est dans ton camp, vis ton truc. Et en fait, elle a très bien foutu. Vraiment, elle m'a fait inception totale, quoi. Parce que je me suis rendu compte, ça m'a fait switcher de point de vue. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, j'ai commencé à regarder non plus les enfants qui étaient chiants, qui ne voulaient pas boire leur lait, tu vois, pendant toute la matinée. Mais j'ai commencé à regarder les parents. J'ai commencé à regarder l'attitude des parents. Et je me suis dit, ah, mais OK, ceci explique cela. C'est-à-dire que vraiment, c'est parce qu'ils ont telle attitude par rapport aux gamins que les gamins réagissent comme ça. Et je crois que de façon un peu vaniteuse et égotique, je me suis dit, mais je crois qu'en fait, il y a vraiment moyen de faire mieux, quoi, tu vois.
Mais je crois que c'est ce qui maintient l'espèce. Hein.
Ouais, moi, je le dis sans phare. Vraiment, je n'ai pas de problème à le dire. Mais en gros, si c'était à refaire, aujourd'hui, je ne le referais pas. Alors, je sais que c'est souvent bizarrement entendu. Mais en fait, j'aime mes filles de tout mon cœur. Je les adore, je vais tout faire pour faire en sorte qu'elles soient bien et tout, mais je sais aujourd'hui que si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et c'est étonnant de le dire comme ça, parce que quand je le dis à des gens, ils me disent « Non, mais tes enfants t'ont appris plein de choses, tes enfants t'ont fait évoluer sur plein d'aspects, etc. » Ouais, carrément, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on va en reparler sans doute, mais le lien émotionnel que ça crée, il est à la fois génial et à la fois terrifiant. Et je crois que avant d'en faire... Personne m'a raconté ça, personne m'a jamais dit ça. Et j'avais mon ami qui était aussi une sorte de figure paternelle pour moi, un mentor, etc., qui avait 15 ans de plus que moi. Il me l'a jamais dit.
Il
avait deux grands-enfants. Il me l'a jamais dit. Et je me souviens, on a eu une discussion, lui et moi, quand on avait, je crois que ma fille aînée devait avoir genre 2-3 ans. Et je suis allé le voir et on a eu notre première vraie discussion, tu vois, en tant que père, quoi. Et je lui dis, putain, c'est chaud quand même. Il m'a dit, bah ouais, je sais. Je dis, mais donc, jamais tu m'en as parlé. Il me dit, bah non, pourquoi je te l'aurais dit, en fait. Il m'a dit un truc du genre, quel père serait fait de moi si je t'avais dit que, franchement, c'était compliqué et que... Et je lui ai dit, mais quel ami ça fait de toi, en fait.
C'est vrai. Mais tu vois, c'est intéressant, c'est pour ça que je te pose la question sur le côté père et pas est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants, parce que c'est pas la même question. Et quand on parle des difficultés de la parentalité, parfois on renvoie à ce que les enfants pourraient penser, alors qu'en fait c'est pas le sujet finalement, c'est la parentalité, ce que ça joue dans toi en tant que personne, pas en tant que père d'enfant, parce qu'en fait finalement les enfants... on les aime, enfin pas toujours je crois, je sais pas, j'ai jamais reçu quelqu'un qui n'aimait pas ses enfants, mais le lien là n'est pas questionné.
Je sais pas, je me rends pas compte, je sais pas comment un parent ne peut pas ne pas aimer son enfant, quoi. Il y a un truc, bah ok, peut-être, enfin je sais pas, peut-être t'es sociopathe, ou alors peut-être t'as aussi toi du mal à... j'en ai un en tête, un daron que j'ai eu dans mon podcast Histoire de Daron, qui avait tellement de mal à connecter avec son môme, mais parce qu'en fait, c'est à la base, le problème vient de lui, entre guillemets, quoi, tu vois, qui finissait par détester ses mômes, en fait. Mais c'est terrible, parce que comme il n'arrive pas à connecter, ils rompt le lien, ça crée de la douleur, ça crée de la colère, c'est terrible, quoi.
Mais c'est toujours un rapport à soi.
Toujours. Mais ça, c'est tellement compliqué, je sais pas, c'est un drame. Je suis en train de me rendre compte de ça depuis 6 mois, 1 an, je suis en train de faire un... Alors, ça fait 5-6 ans que je suis en thérapie, moi, de mon côté, mais je suis en train de faire un gros, gros travail sur mon rapport aux autres. Parce que d'abord, j'ai plutôt taffé sur ma pomme. Et en fait, de te rendre compte que ton rapport aux autres, il vient avant tout de toi, c'est un truc de ma boule, mais c'est surtout ton rapport à tes enfants, en fait, qui vient avant tout de toi et de ce que tu leur projettes dessus. Alors, ce que tu projettes à tout le monde, d'une manière générale, mais ce que tu leur projettes dessus, c'est complètement dingue à quel point ça... ruine quelque part la relation, quoi.
C'est vrai. Mais tu vois, je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toutes ces histoires, tu sais, de dépression quand on devient parent, parce qu'en fait, alors, tu vois, moi, ma fille, elle a 5 ans, donc j'ai 5 ans d'expérience, on va dire, en parentalité, mais j'ai encore rien trouvé qui te met le plus face à toi que la parentalité. Je trouve que c'est le truc qui fait tout exploser, qui fait exploser qui tu es, toi, qui fait exploser aussi un peu le rapport avec les personnes qui t'ont élevé, ce côté transgénérationnel, un petit peu de... Tu remets en question absolument tout quand tu deviens parent. Et toi, chez toi, je crois que c'est arrivé à un moment où en plus tu construisais quelque chose.
C'est-à-dire ?
Tu étais en train de faire Mademoiselle.
Ah oui, oui, je suis...
C'est marrant, tu vois.
Mais je crois que j'ai reçu vraiment pas mal de pères qui, souvent, à cet âge-là, tu vois, trentaine, pré-trentaine, t'as eu ta vingtaine où t'as construit les bases de ton travail, de ta vie professionnelle, etc. Et à 30 ans, tu bascules dans quelque chose d'autre. Donc souvent, tu fais un peu tout en même temps, j'ai l'impression, et que tu finis par te dire, ok, il est temps de construire. Donc en fait, tant qu'à faire, autant tout construire d'un coup, quoi. Puis bon, en plus, la légende raconte, mais c'est même pas une légende, c'est vrai, c'est que vraiment, on a conçu notre fille le jour où j'ai lancé Mademoiselle, quoi. Donc c'est vraiment... Ouais, tout fait en même temps, le gars. Il a tout lancé en même temps.
Ouais, mais tu vois, il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et je pense que ce n'est pas un hasard, tout ça, tu vois. C'est qu'il y a un moment où ces petites bêtes choisissent d'arriver à un moment opportun, tu vois.
Oui, exactement.
Et tu me disais, là, ta page, je pense, terminée, comment tu as cheminé, toi, vers la décision de te lancer, finalement, sur la paternité. Tu disais que ton ex t'avait fait un petit peu un côté Inception, ouais. Voilà. Et comment, en fait, à quel moment tu t'es dit, ou est-ce que tu te l'es dit, d'ailleurs, ok, c'est bon, on y va.
Ouais, pour le coup, ça n'a pas été, tu vois, un accident, ouais. Ou je ne sais pas quoi. C'était vraiment... Il y avait vraiment un moment donné où je suis allé la voir en lui disant ok, je crois que je suis prêt, je crois que c'est bon pour moi, quoi. Et voilà, on a mis... je me souviens, c'était très intéressant d'ailleurs, parce que peut-être ça va parler à certaines de tes auditrices et auditeurs. Mais elle venait, elle, de lancer, je crois, peut-être un an avant, sa boîte à elle, parce qu'elle a lancé son agence immobilière à Lille, qui existe toujours d'ailleurs. Mais en fait, pendant peut-être j'ai pas les bonnes infos, elle va me dire, putain, t'es toujours à côté de la plaque. Mais en gros, je crois que pendant quelques mois, 4-5 mois peut-être, tu vois, à chaque fois qu'elle avait ses règles et donc en fait elle se rendait compte que ça avait pas marché, ça partait de plus en plus en saucisse, si tu veux, dans sa réaction. Tu vois, elle était de plus en plus impatiente et de plus en plus dans le truc de, oh, mon Dieu, mais on va pas y arriver, je vais pas y arriver, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et en fait, je me souviens très bien qu'on a eu une discussion vraiment les yeux dans les yeux, où je lui dis, mais ok, pourquoi tu réagis aussi violemment, qu'est-ce qui fait que ça va pas, etc. Et en fait, j'ai mis un peu de temps, mais elle finit par me... Je lui ai tiré un peu les verres du nez et tout. Et en fait, elle a fini par me dire qu'elle avait peur que le fait de tomber enceinte mette en péril sa boîte. Et je lui ai dit, ok, mais ça, c'est entendable et tout. Est-ce que tu en as parlé, par exemple, à ton associé qui,
au hasard
avec, qui a 20 ans de plus que toi, qui connaît comment ça marche, qui est déjà passé par là, et puis de voir un petit peu comment elle réagit et de voir si elle va être, si déjà elle est soutenante avec toi, etc. Elle me dit, écoute, non, je lui en ai pas vraiment parlé, c'est pas vraiment un sujet. Je lui ai dit qu'on avait un projet, mais je lui ai pas dit qu'on était en train de galérer, que j'avais peur que le fait de tomber enceinte. Elle me dit, mais t'as raison, je vais aller lui en parler et tout. Le lendemain, le surlendemain, elle en parle, le mois d'après, elle était enceinte. Parce qu'en gros, son associé lui a dit, non, mais t'embête pas avec ça, on va s'adapter, on va réussir à trouver des solutions. Commence pas à partir du principe que cet enfant va mettre en péril le projet d'entreprise, parce que c'est sûr que ça va pas marcher, quoi. Bon, après, on n'avait pas de soucis, tu vois, de santé particulier. Donc, ça prouvait bien que c'était juste à un moment donné dans la tête, il fallait peut-être que ça se dégoupille. Et l'enfant est arrivé 9 mois plus tard, quoi, tu vois.
Encore une fois, hein, ça reste une question de...
Tout à fait.
C'est passionnant. Enfin, moi, je pourrais étudier l'être humain comme ça et tous les êtres humains comme ça tout le temps. Voilà, quoi. Et comment tu prends la nouvelle quand tu apprends cette grossesse, toi?
Je m'en souviens très bien parce que je venais tout juste de lancer Mademoiselle. Hein. C'était vraiment 3 semaines plus tard, tu vois. Donc vraiment, c'était le tout début. Et elle me dit, écoute, j'ai pas mes règles. J'ai fait un test. Le test a l'air positif. Elle se pointe un soir comme ça. Elle vient s'asseoir sur mes genoux, je me souviens très bien du moment. Et elle me dit, écoute, voilà, peut-être ça marche, quoi, tu vois. Donc, prise de sang. Et puis, en fait, c'était parti. Mais ouais, ça a été assez étonnant parce que je me suis dit, OK, il va se passer un truc chelou. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va être une période bizarre. Et en fait, j'ai lancé ce blog totalement anonyme en me disant, je ne sais pas, en plus, je crois que j'étais dans une énergie créative, tu vois, et je me suis dit, ça va être intéressant de prendre note et de garder un journal. En fait, au départ, c'était un peu pour ça. Et je crois qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus vraiment comment ça se goupille, mais je me dis, OK, je vais lui dire en fait, que je suis en train d'écrire un truc. Et je lui raconte. Et en fait, elle me dit... Je lui demande, en fait... C'est un peu confus, pardon. Mais je lui demande de pas aller le lire. Tu vois. Je lui dis, écoute, je suis en train de lancer un blog. Mais à la base, pour moi, c'était vraiment... C'est pour envoyer des nouvelles aux copains. Et je lui dis, peut-être que tes copines vont t'en parler. Si jamais t'en entends parler, j'aimerais bien que t'ailles pas voir ce que je suis en train de raconter parce que j'aimerais imprimer le tout à la fin et te l'offrir en cadeau. Et elle me dit, ah, c'est trop bien, merci beaucoup, c'est super et tout. Moi, j'aimerais bien un truc en échange, de pas aller le lire, c'est que si t'écris encore à la moitié de la grossesse, j'aimerais bien que tu l'envoies à des maisons d'édition. Donc, je sais pas pourquoi elle me dit ça à l'époque, mais elle a sans doute une intuition... de femme enceinte, n'est-ce pas? Et en fait, je lui dis, OK, si tu veux. Moi, c'est plutôt, OK, on verra bien où on en est à ce moment-là. Quoi. Et bon, bien sûr, elle n'oublie rien. Donc, 4 mois et demi, 5 mois, elle vient me voir en me disant, bon, alors, t'en es où? Bah, écoute, j'écris toujours. En fait, je m'amuse bien, c'est trop bien, c'est hyper intéressant. J'écrivais le soir souvent, tu vois. Je bossais jusque très tard, j'étais en train de lancer Mademoiselle. Je bossais dans la nuit, tu vois, jusque 2-3 heures du mat. Et parfois, à 2 heures... C'était trop cool, j'étais dans mon grenier à l'époque, je me disais OK, je vais écrire mon petit post du jour, j'écris mon petit post du jour avec de la musique cool dans les oreilles, enfin c'était très sympa. Et elle me dit bah écoute, si tu respectes pas ta part du deal, moi mes potes, je vais leur demander et puis elles vont m'envoyer le truc, enfin elles vont m'envoyer l'adresse. Donc je lui dis écoute, non, fais pas ça. Je vais à la Fnac, je connaissais rien, je vois le top 1, je fais OK, c'est Guillaume Musso, XO édition, très bien XO édition, j'envoie à XO édition mon truc. Et en fait, la directrice littéraire de XO Édition sortait de sa grossesse. Donc vraiment, elle était plein dans le truc. Et elle m'appelle en me disant oh, « Mon boss, il veut pas de votre livre et tout. Il n'a pas compris. Mais moi, c'est la première fois que j'entends un père. » Enfin, c'est 2005, hein, donc c'est il y a longtemps. Hein. C'est la première fois que j'entends un père parler comme ça de la grossesse de sa femme. Mais je vais envoyer le manuscrit à mon mec qui travaille dans une autre maison d'édition. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai fini par... signer un contrat avant même que la grossesse soit terminée, si tu veux. Au départ, en plus, j'étais hyper réticent. Je me disais, non, je suis en train de dénaturer le projet et tout. Mais ce que je n'avais pas capté, c'est qu'entre-temps, je ne connaissais pas du tout les forums de femmes enceintes. Moi, tu vois, à l'époque, c'était vraiment Magic Maman et tout. Et le blog avait fait le tour. Et donc, moi, j'avais à la fin, j'avais 7000 visites par jour, quoi. De gens qui étaient là, « Oh, il n'a pas posté !» Parce que j'étais censé poster à 11h. Il suffisait qu'un jour, je poste pas à 11h, tu vois. « Oh mon Dieu, elle est en train d'accoucher !» Non, j'étais juste au cinéma, foutez-moi la paix. mais ouais, donc ça s'est transformé en bouquin qui existe toujours en poche. Je l'ai jamais relu. Hein.
Ah ouais ?
Non, ma condition sine qua non avec l'éditeur, c'était « Je veux pas le relire, je veux pas toucher à quoi que ce soit. » Parce qu'en fait, pour moi, chaque moment est emprunté de l'émotion du moment. Et si je le relis 9 mois plus tard, mes débuts, je vais me trouver complètement niais, complètement débile. Aujourd'hui, je l'ai toujours. Ça me fait tellement peur de me relire parce que c'était il y a 15 ans. Je crois que je suis idiot à plein d'aspects, mais c'est pas grave. Ça fait partie de aussi. Ça prouve aussi mon évolution personnelle.
Ouais, carrément. Tu sais quoi, carrément. Tu vois. Mais du coup, t'écrivais sur quoi ? Sur ton ressenti à toi ou sur la grossesse ?
Les deux, en fait. C'était à la fois énormément de ressenti, de ce que je pouvais vivre, moi, de mon côté. Et puis après, c'était hyper intéressant parce que ça m'a vraiment incité à m'intéresser à la grossesse. Et je trouvais ça vraiment trop cool comme démarche. Enfin, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais après coup, je me suis dit, mais c'est génial, en fait, ça t'incite à aller lui poser des questions, tu vois, de découvrir... D'un coup d'un seul, je me souviens vraiment, le truc pour moi, c'était terrible, c'était les soutiens-gorge d'allaitement, tu vois, j'étais là. On rentre dans une autre dimension, que se passe-t-il vraiment ? Tu sais pas en tant que mec, tu vois. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être avec les réseaux, tu vois, ça s'est peut-être un peu démocratisé, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça, quoi. Donc, tu découvres ça en même temps que bah, ta compagne le découvre aussi, quoi. Donc, c'est assez étonnant. Et à chaque fois, j'étais, waouh, des nouveaux trucs. Moi, la nouveauté, j'adore ça. Donc, c'était hyper intéressant parce que ça m'incitait aussi à lui poser des questions, à déclencher des discussions que je finissais par remettre dans le blog après et qui étaient toujours marrantes. Et là aussi, de me rendre compte de l'inutilité du père dans ouais. tout ce process. Depuis le jour où tu as fini par aller foutre ta petite graine, entre guillemets, jusqu'à... La fin, en gros, hein, vraiment. Alors, ça a sans doute changé aujourd'hui, tu vois.
Ouais, je pense.
Mais à l'époque, les gens ne te calculent pas.
Enfin, ça a changé, oui et non.
Oui, parce que tu vois, par exemple, dans l'histoire de Daron, j'ai reçu une femme, qui est mariée avec une femme, qui a accouché de leur premier enfant et qui a été coparent pour la deuxième grossesse. Et en fait, c'était génial parce que c'était la première fois que je recevais quelqu'un qui avait été des deux côtés de la barrière. Et elle-même, elle disait « Mais c'est ouf, personne ne s'intéressait à moi la deuxième fois !»
C'est
alors
ça.
Que je vivais plein d'émotions, qu'il y avait plein de choses qui me traversaient, et en ayant été en plus
c'est ça, ça doit être encore
en tant
plus
que
fou.
Maman,
ouais.
Elle s'est dit mais le décalage il est dingue. Et j'étais là putain merci beaucoup ça.
Non mais c'est vrai, quand tu connais les deux ça doit être assez impressionnant tu vois.
Ouais.
C'est fou.
Et ouais donc voilà vraiment ce fameux truc de personne ne s'intéresse à toi, personne ne s'occupe de toi, et toi t'es là et t'es en train de traverser le truc, et tu prends des émotions plein la gueule. En plus, globalement, t'es pas spécialement préparé, quoi. Et ceci dit, moi, j'étais ultra préparé parce que j'étais très heureux de suivre tout le truc de la grossesse. Alors, un peu pour mon blog aussi, mais j'avais aussi ce truc. Pour moi, c'était très important de me préparer à la grossesse. C'était vraiment un sujet sur lequel je me disais, bah, j'ai envie d'être un bon père, quoi, tu vois. Donc, ça commence tout de suite. Donc, j'avais fait les préparations à l'accouchement. Enfin, donc, en fait, j'étais vraiment au taquet, quoi. Mais même en étant au taquet, enfin, j'étais pas prêt pour le jour de l'accouchement, par exemple. Tu vois, émotionnellement, j'étais ah.
Ah ouais. La rencontre, elle a été. Tu t'y attendais pas.
Non. Enfin, en fait, comment dire. Je crois que je m'y attendais techniquement. Tu vois.
Ouais.
Encore une fois, j'étais ultra préparé.
Ouais.
Je savais comment ça marchait, quel rôle je pouvais jouer à côté de ma femme, être là pour elle, etc., etc. Mais tu veux que je rentre dans les détails graphiques ou pas?
De l'accouchement.
Ouais.
Je sais pas, est-ce qu'il y a une utilité dans le sens où est-ce que ça a changé ta perception
oui.
à toi ? Eh ben vas-y alors.
Mais en gros, ma femme a eu une épisiotomie, si tu veux.
Ouais.
Donc déjà, elle a une résistance à la douleur qui est relativement élevée. D'accord ? Donc il lui avait collé une péridurale avec une pompe, tu sais, qu'elle pouvait activer. Et si j'ai bien compris, la meuf avait tellement pas mal pendant tout le travail qu'elle a jamais appuyé sur la pompe. Donc sa péridurale... Elle en aurait eu bien besoin, on va dire, les 15-20 dernières minutes quand il était temps de faire sortir le bébé, si tu veux. Mais avant ça, donc sa péridurale ne marchait pas. Enfin, en tout cas, elle n'était pas... voilà. Ce qu'elle a bien compris pour le deuxième, d'ailleurs. Elle était là toutes les demi-heures. Je m'envoie un peu de drogue, laisse-moi tranquille. J'ai compris de la première fois. Et en fait, elle a énormément souffert. Et en fait, je me souviens pertinemment de... Alors, si tu veux, j'étais vraiment à côté d'elle. mais j'ai entendu les sages-femmes en train de préparer une paire de ciseaux, le ciseau qui claque pour l'épisiotomie, si tu veux. Et je l'ai vue, elle, hurler. Mais tu vois, c'était il y a 16 piges, hein, tu vois, mais j'y repense et je suis là. L'émotion est encore présente. Je l'ai vue hurler, était là, et en fait, je crois que j'avais jamais eu la possibilité de souffrir par procuration à ce point-là, quoi, tu vois. J'étais à côté, et ça, c'était un peu le firmament, le summum de « Mec, depuis le début, tu sers à rien dans cette histoire, et là, t'es au top de « Tu sers vraiment à rien. » Ta femme, elle est en train de morfler, elle est en train de se faire découper la chatte, elle est en train de gueuler comme elle a jamais gueulé, et toi, tu es en train de péter un câble à l'intérieur de moi, émotionnellement. J'ai failli tomber dans les vapes, en fait, suite à ça, tellement c'était trop d'émotions. La sage-femme m'a regardé, elle m'a fait « Monsieur, vous êtes tout pâle !» J'ai fait « Ah ouais ?» Je sentais effectivement que c'était en train de monter, quoi. J'ai l'habitude de faire du malaise vagal, etc. Donc, je sais quand ça monte, je sais qu'il faut que je m'assoie et tout. Et là, vraiment, j'avais un peu ce truc de « Non, mais en fait, il faut que je sois à côté d'elle. » Et la meuf a été trop cool parce qu'elle m'a dit « On n'a pas besoin de vous... » On n'a pas besoin de vous réanimer là maintenant, s'occuper de vous. Sortez, en fait, allez boire un verre d'eau, allez vous aérer, machin. Et en fait, je l'ai fait, je me suis assis et j'ai raté l'accouchement de ma fille, en fait, parce qu'ils sont venus me chercher et elle était là, tu vois. Et la rencontre, mais c'est... Je ne sais même pas comment l'expliquer. C'est juste, j'étais vraiment ultra préparé, mais émotionnellement, ça a été un truc de ma boule, quoi. Et tu vois, j'ai un ami qui a accouché, dont la femme a accouché il n'y a pas très longtemps, qui est devenu papa il n'y a pas très longtemps. Lui, pour le coup, il n'était pas du tout dans ce truc de préparation, etc. Et on n'en a pas reparlé parce que c'était assez récent, mais je ne sais pas comment il a fait. C'est-à-dire que je ne sais pas.
Et pourtant, c'est la majorité des pères. Hein,
je sais.
Qui ne préparent pas et qui arrivent là comme...
Mais peut-être que j'étais trop... Enfin, je ne sais pas. Mais
je ne pense pas.
J'étais vraiment pas...
Je ne pense pas que tu aies été trop préparée parce qu'en fait, finalement, la préparation n'a aucun rapport avec le lien émotionnel et ce que tu as découvert là. Puisqu'au final, tu ne t'attendais pas spécialement à ce que, par exemple, elle hurle comme elle a hurlé, à ce qu'elle subisse tout
Impossible.
Ça.
Et encore une fois, je crois que... Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a des préparations pour les pères, tu vois. Je me souviens qu'il y avait une séance pour les pères. C'était assez marrant parce que on était, je crois, peut-être 10, 15 mecs autour d'une table avec une sage-femme en plus, donc une meuf. Je crois que ça a mis... c'était une heure, je crois que ça a mis trois quarts d'heure à briser la glace, en fait. Et le dernier quart d'heure, les mecs se sont lâchés. Mais et en fait, tu sentais très bien que il y en avait plein qui repartaient avec plein de questions sous la main et qui ne savaient pas comment faire, quoi. Et je me rends bien compte aujourd'hui, tu vois, avec le recul et l'expérience que j'ai, que déjà... Je crois que faire ça par une femme, mais c'est pas un reproche, hein, tu vois, mais je me rends bien compte que déjà c'était canon à l'époque de faire un truc pour les pères, quoi, parce que c'était pas. Voilà, on n'était pas du tout inclus dans le truc. Mais effectivement, de faire animer ça par une femme, c'est pas forcément très simple. Et en plus, je me rends bien compte que moi, j'étais un peu en mode observateur, si tu veux, en mode anthropologue, parce que j'avais l'impression que j'étais. Enfin, tu vois, je connaissais déjà toutes les réponses. Et en vrai, avec le recul, tu vois, je regrette de ne pas avoir dit « Bon, bah alors, moi, je flippe trop de savoir comment ça va se passer. » Je ne me suis pas ouvert, tu vois, parce que, par exemple, j'avais un autre truc qui m'avait traversé pendant tout un moment, pas très longtemps, mais 15 jours, 3 semaines, où, systématiquement, je voyais ma femme mourir.
Ah ouais?
Alors, j'ai pas...
Pendant la grossesse?
Pendant la grossesse. Je ne suis pas flippé de la mort, hein, tu vois. Je n'ai pas cette obsession-là en tête, mais alors là, pendant ce temps-là... Et puis, en plus, c'était... graphique, si tu veux, tu vois, c'est-à-dire que je venais la chercher au boulot, je la voyais traverser et j'avais une image en tête qui était un camion qui vient lui rouler dessus. What the fuck?
C'est chaud.
Et en fait, je crois aussi, tu vois, qu'il y avait ce truc de elle porte la vie de ta descendance, quelque part, tu vois, d'un point de vue purement macro de la survie de l'espèce, comme tu dis, et que moi, j'étais là et je servais à rien, quoi. Et tu vois, avec le recul, je regrette de pas avoir foutu mes tripes sur la table à la minute 2, tu vois, et que ça aurait sans doute libéré tout le monde, quoi. Donc, si jamais il y a des pères qui écoutent et que vous vous retrouvez dans ce genre de truc, je sais que c'est très compliqué. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, les mecs finissent par tout lâcher, mais il faut que quelqu'un lance le truc, tu vois.
Mais il y a des ateliers qui existent animés par des papas. Il y a deux ans, je crois, j'ai reçu un papa qui avait créé ce genre d'atelier. Donc ça existe, donc on peut se renseigner, allez-y.
Il y a l'atelier du futur papa, ouais, si je ne me trompe pas, c'est ça.
Ouais. Et c'est vachement bien, tu vois. C'est hyper cool parce que du coup, c'est que des papas. Et c'est un homme, un papa aussi, du coup, qui anime et qui, au-delà de... Parce que finalement, à la base, ils sont faits ces ateliers pour t'apprendre les gestes techniques.
Ouais.
Mais au final, les gestes techniques, t'as pas besoin de les apprendre en amont. Parce que, enfin, je veux dire, en tant que femme, on les connaît pas plus que les hommes. Enfin, je veux dire, ça s'apprend en faisant. C'est pas ça qui compte, en fait, finalement.
C'est plutôt un prétexte.
Voilà, c'est ça. Mais la préparation à la naissance, la préparation à la parentalité, à mon sens, c'est quelque chose qui est très psychologique, en fait, plus qu'autre chose. Parce que le vrai changement, il est là. Le vrai changement, c'est pas d'ajouter un lit ou d'ajouter une chambre dans ta maison ou d'acheter des couches. En fait, ça, en vrai, c'est pas ce qui compte, quoi.
Ouais, mais je crois qu'on a tendance sociétalement à se dire que c'est ça la façon de se préparer à l'arrivée du bébé, mais tellement pas, en fait.
Non. C'est ce qu'on voit, ça. Ça, le problème, c'est que c'est que du visible et les vrais fonds. Et les vrais problèmes, entre guillemets, c'est que de l'invisible. Et du coup, quand ta fille arrive, ta première fille arrive, tu dis, t'as cette vague d'émotions. Est-ce que tu te rends compte à ce moment-là d'à quel point c'est énorme ?
Alors, pour te dire, ça va peut-être paraître chelou, mais il y a des images qui me viennent où j'ai l'impression que d'un coup d'un seul, je suis relié au reste de l'univers par l'intermédiaire de ma fille. C'est assez étonnant, mais j'ai vraiment un truc... Tu vois, dans ce chamboulement d'émotions, là, j'ai vraiment des flashs qui me viennent sur... je sais pas, il y a une forme de... Ok, ça me ramène à une forme de racine. Enfin, c'est vraiment... Je sais pas d'où ça vient, hein, tu vois. J'avais jamais eu ça auparavant. Mais où d'un coup d'un seul, cet enfant m'ancre. Je sais pas dans qui je suis. C'est... Je sais pas d'où ça vient. Mais vraiment, j'ai vraiment cette sensation-là. Et bien sûr que je me rends compte que c'est énorme, en fait. Et d'un coup d'un seul, t'as ce truc de... C'est tellement étonnant parce que ça fait 9 mois, un peu moins de 9 mois, mais que je suis en train de te parler, que j'étais à fond sur le ventre de mon ex pendant la grossesse, où j'avais ces moments assez géniaux où, comme je te disais, je bossais tard, enfin, je bossais dans la nuit, donc j'allais me coucher souvent vers 2-3 heures du mat. Et vers la fin de la grossesse, en fait... Il y avait ma femme qui dormait, tu vois. Et en fait, j'adorais parce que je me glissais dans le lit et je mettais la main sur le ventre. Et en fait, on avait ce moment à tous les deux avec ma fille. Je ne savais pas que c'était une fille à l'époque. Ouais. Mais où on avait ce moment de connexion, en fait, où elle me tapait, tu vois, sur la main. Et ma femme dormait. C'était vraiment assez génial, en fait, parce qu'elle, ça ne la réveillait pas. Et moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir juste mon moment avec elle, quoi. C'était assez étonnant. Donc ouais, et puis c'est ça, quoi. T'as ce truc de... Tu fais la connaissance de cette personne qui est à la fois complètement étrangère et qui, en même temps, te paraît si proche. C'est assez bluffant, quoi.
C'est assez, ouais, assez fou. On va passer, parce qu'on n'a pas besoin forcément des détails de la petite enfance et des trucs techniques. Et je pense que c'est des choses qu'en plus, t'as déjà racontées ou...
Sans doute.
Ou voilà, quelque part. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la démarche... d'avoir un deuxième enfant. Pourquoi ? Enfin, pourquoi ? Pourquoi ?
Pourquoi faire ?
Pourquoi tu fais ça ? Non, mais pour quelle raison ? Et est-ce que tu as senti un élan ? Enfin, pourquoi cette deuxième personne, cette deuxième enfant est arrivée dans votre vie ?
Écoute, il y a un truc à un moment donné de réussir à connecter notre première fille avec quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, de créer une forme de fratrie. Et en fait, on vient tous les deux d'une famille de trois. Et on s'est rendu compte à quel point c'était compliqué, la famille de trois, notamment celui du milieu. C'est toujours très compliqué pour celui du milieu. Et on s'est dit qu'on voulait juste faire deux enfants, en fait. Donc voilà, tout vient de là, en fait, à la base. C'était vraiment... Il y avait vraiment ce truc de... Ouais, voilà, créons une entité familiale et en fait, traînons pas trop. Donc c'est pour ça qu'en fait, elles ont que 2 ans d'écart. Parce qu'on voulait aussi qu'elles aient... tu vois, une connexion toutes les deux, qu'elles n'aient pas trop d'écart, qu'elles puissent échanger et sur leur vie, etc. etc. quoi.
Ok. Et tu vis la grossesse, cette deuxième grossesse, de la même façon que la première ?
Non, pas trop, parce que... Alors si, déjà, je suis à fond, mais je continue à être à fond, en fait. Mais je crois qu'on néglige vraiment, pendant la deuxième grossesse, l'impact que peut avoir le premier enfant. Et surtout quand, tu vois, la fille aînée avait... un an et demi, quoi.
Ouais, tout petit, quoi.
Elle était toute petite. Et même si elle était hyper débrouillarde et hyper autonome, et je crois qu'en plus, le fait qu'elle comprenne assez rapidement qu'elle va être grande sœur et tout, ça l'a aussi un peu incité à se booster. Enfin, tu vois, elle savait s'habiller toute seule. Enfin, c'était vraiment assez, assez scotchant, mais elle était hyper demandeuse, tu vois.
Ouais.
Je veux me débrouiller. Je suis une grande fille. Je veux savoir mettre ma petite culotte toute seule, machin. C'était assez étonnant. Mais donc non, en fait, je la vis pas de la même façon déjà parce que mon ex est une énorme tête de mule et qu'en fait, elle a décidé un jour de... Elle a pas vraiment pris soin de sa santé, si tu veux.
D'accord.
Là où elle n'avait pas non plus pris soin vraiment de sa santé pendant la première fois, dans le sens où elle avait pas... Elle avait continué à vivre comme si elle vivait auparavant, quoi. Mais elle avait, je crois, négligé aussi le fait que il y avait la petite aussi dont il fallait s'occuper, qui n'était pas là pendant la première grossesse. Et je me souviens notamment d'un jour où je rentre du boulot et elle a déménagé la chambre toute seule, alors qu'elle est enceinte, je crois, de 6 mois. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne m'as pas attendu ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'avais le temps, je l'ai fait, machin, et puis voilà. Et en fait, elle s'est retrouvée alitée assez rapidement parce que elle a trop déconné, quoi. Et ça a été super dur pour elle de pas pouvoir bouger, etc. Elle qui est plutôt du genre hyperactive. Et elle s'est un peu auto-punie, tu vois, en faisant ça. Et notre relation a pris un peu un coup dans l'aile. Et j'ai envie de dire à tous les gens qui sont... Pour moi, la grossesse de deuxième est vraiment primordiale et c'est le moment où il faut justement resserrer les liens. Et je crois qu'à l'époque, j'en avais pas conscience. Et il faut surtout communiquer énormément, quoi. Et je crois qu'on n'a pas assez communiqué, elle et moi, alors que pourtant, c'était plutôt un truc qu'on savait faire. On se connaissait depuis super longtemps. On était ensemble depuis 10 ans et tout. Mais on n'avait jamais vécu ce moment de stress aussi fort l'un l'autre. Et surtout, pour moi, il n'y a plus la magie de la première fois, quoi. Tu vois, il n'y a plus ce truc de... Ok, on découvre tout, on fait tout à nouveau, etc. etc. Donc ouais, voilà, ça n'a pas été forcément une grossesse très simple. Mais en revanche, l'accouchement s'est passé de façon beaucoup plus cool pour moi parce qu'en fait, c'est bon, j'étais au courant, j'avais vu. Émotionnellement, j'avais appris à gérer aussi. Elle, de son côté, elle avait appris à gérer la péridurale. Donc c'était beaucoup plus calme, en fait. Et étonnamment... Donc Kim, qui est ma deuxième fille, est arrivée au monde beaucoup plus calme aussi, quoi. Tu vois. Donc je crois qu'il y avait aussi un truc où le fait qu'elle ait été obligée de se poser pendant tous ces mois, pendant toutes ces semaines, où ça a un peu aussi apaisé notre fille, quoi. Tu vois.
Ouais, complètement. Je vois bien. Est-ce que tu as ressenti cette même émotion à la découverte de ta deuxième fille ? Est-ce que ça a été un... Tu sais, tout à l'heure, tu disais quand elle est arrivée la première, tout a changé, quoi, finalement. Est-ce qu'avec la deuxième, c'était pareil ?
En fait, l'émotion était... En fait, c'était vraiment étonnant parce que... déjà, il n'y avait pas du tout l'émotion... Enfin, la violence, en fait, que j'ai ressentie pendant l'accouchement. C'était beaucoup plus calme, c'était beaucoup plus détendu. Moi, j'étais vraiment beaucoup plus zen. J'étais dans un autre état. Et elle est arrivée hyper chill. Et en fait, c'était tellement plus doux que j'ai pas revécu ce truc qui m'a ramené à mes racines, etc. Calme-toi. Mais c'était, je sais pas, il y avait une forme de complétude, tu vois, de ok, c'est bon, maintenant, ok, on en a deux. Et en fait, elles se ressemblaient tellement, c'était flippant. elles se ressemblent toujours beaucoup, mais vraiment, quand elles étaient bébés, c'était vraiment flippant. Elles se ressemblaient tellement que vraiment, il y avait un côté, est-ce que c'est la meuf ? Est-ce qu'on l'a clonée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? je crois que ça a été ma première réaction de me dire waouh, mais c'est vraiment le copier-coller, quoi. C'est assez impressionnant.
Ah, c'est marrant, mais en même temps, après, c'est les mêmes moules, hein. Donc a priori,
c'est toujours une bonne nouvelle pour le père quand ton enfant te ressemble d'une manière générale et que le deuxième finit par ressembler au premier, quoi. C'est toujours,
ouais, c'est toujours rassurant, on va dire.
Oui,
c'est pour la blague,
bien sûr.
On va passer à l'étape supérieure, on va dire. J'ai l'impression que, tu vois, on level up un peu en parentalité et c'est un peu ça. Enfin, moi, je le vois comme ça.
Oui.
Enfin, je ne sais pas si les auditeurs et les auditrices auront cette référence de level up, mais du coup, le temps passe. Quand les enfants grandissent émotionnellement, il y a des choses qui... Enfin, tu n'es pas le même parent quand tu as des petits-enfants, on va dire, 0-3 ans, qu'après. Comment toi, tu l'as appréhendé, tout ça ? Quel type de père t'étais sur les 0-3 ans et comment ça a évolué ?
J'ai été beaucoup... présent, en fait, on va dire, de 0 à 6 déjà.
Ouais.
Et en fait, après, mon job m'a incité, ou en tout cas, je me suis autorisé le fait d'ouvrir des bureaux à Paris et donc de quitter la famille du mardi au vendredi, quoi. J'étais beaucoup moins présent dans le quotidien. En fait, j'ai monté ma boîte à Lille. Je me suis rendu compte qu'un média d'envergure nationale comme ça, tu ne pouvais pas le faire grandir à Lille. La France est comme elle est, c'est-à-dire que c'est un pays ultra centralisé et les médias se trouvent tous à Paris. Et en gros, dès que tu es étiqueté et dès que t'es pas parisien, en fait, ouais, dès que t'es pas un média parisien, t'es un média régional, tu vois. Ouais. Pour alors que moi, mon ambition, c'était pas de faire de Mademoiselle un média régional, c'était de faire de Mademoiselle un média national, quoi, voire même international, enfin en tout cas francophone. Et en gros, au bout de deux ans et demi, trois ans, je me rends compte que en fait, la boîte va pas réussir à s'épanouir, à se développer comme je voudrais, si elle reste à Lille. Et je mets, je crois, 2-3 ans avant de me dire qu'il est temps d'ouvrir des bureaux. C'est une vraie déchirure, en fait, pour moi, parce que... Alors, je ne suis pas très fort dans le quotidien, tu vois. Ce n'est pas un truc qui m'excite grandement. La routine, notamment, qui est induite aux enfants. Et puis, mon ex est vraiment, pour le coup, ultra forte là-dedans. Donc, si tu veux, il n'y avait rien qui dépassait. Là où, moi, je crois que j'aurais pu y mettre un peu plus de créativité, si tu veux. Elle, pour elle, c'était hyper important, les rythmes, etc. Enfin, je le comprends, hein, tu vois, j'ai toujours respecté ça. Mais je dois te dire que moi, ce n'était pas forcément ma tasse de thé. En revanche, le quotidien en tant que tel, de pouvoir avoir ses enfants, etc. Alors, je travaillais énormément. Je me rends compte aujourd'hui avec le recul que je suis passé à côté de leur enfance d'une certaine manière. Parce qu'en fait, j'avais ce projet, moi, qui me boostait. Et en fait, à un moment, je suis allé la voir en lui disant, écoute, je crois que c'est hyper important pour moi et pour le projet d'aller ouvrir ses bureaux à Paris. Et je serais frustré si la boîte continue à vivoter pendant des années. Je crois que le projet, il mérite plus d'ambition, il mérite plus de... Et donc, il mérite d'être à Paris, quoi. Et ça a été vraiment dur pour moi. Et en fait, je me suis dit... l'un des trucs qui m'a aidé, c'est que je me suis dit, OK, imagine, à 14-15 ans, elles vont te chier dans les bottes comme tous les adolescents vont te chier dans les bottes. Est-ce que tu seras capable, à ce moment-là, de ne pas leur en vouloir ? De t'être sacrifié, entre guillemets, d'être resté là. Et je crois que j'aurais pu leur en vouloir. Donc, je me suis dit, écoute, let's go. On verra bien ce que ça crée comme relation, etc. J'ai fini par faire ça. Après, pour revenir à l'essence de ta question, c'est que pour moi, l'un des gros changements dans ma vie, ça a été vraiment de finir par rentrer en thérapie, de finir par avoir une psy, que cette psy m'explique ce qu'étaient les émotions, par exemple. Ce truc étrange qui se passe en toi et qu'en tant que mec, on ne t'apprend pas.
En tant qu'humain, on ne t'apprend pas.
En tant que fille, on t'autorise un peu plus à pleurer.
On t'autorise certaines émotions.
Voilà, c'est ça. C'est pas ce que j'allais dire. À pleurer, ouais. à pouvoir faire preuve de certaines émotions de tristesse, etc. En tant que garçon, tu ne peux pas, en fait. Tu vois, ce n'est pas possible.
Mais on ne t'autorise pas à être en colère en tant que fille.
Bien sûr.
Tu vois,
ouais.
Alors que chez les garçons, si.
Exactement. Enfin bref, tout ça est fucked up. Voilà, c'est complètement niqué. Et effectivement, moi, je découvre tout ça et je me rends compte à quel point j'ai formé, comme dit ma psy, une digue pour faire en sorte que les émotions ne traversent pas. Parce que si jamais elles traversaient, je me ferais submerger la gueule, quoi. Quand elle me dit ça, je me rappelle de ce que j'ai vécu pendant la grossesse, enfin pendant l'accouchement de Lina, quoi, tu vois. Donc je me dis, ah oui, ok, donc ça fait ça. Je comprends que effectivement la digue à ce moment-là a sauté, mais en gros, je me rends compte aussi que la plupart des émotions négatives que peuvent traverser mes filles, je les bloque, je les empêche même de les vivre correctement, tu vois, parce que je leur dis arrête de pleurer, et pour une raison simple, c'est que je suis incapable de gérer moi-même leurs émotions. Donc ça a été un grosse claque dans la gueule.
C'était quand ça? Enfin, vous avez quel âge?
2016, donc en fait, elles étaient déjà grandes. Hein, tu vois, elles avaient déjà 8 et 10, quoi. Donc,
ouais, donc elles avaient déjà réprimé pas mal d'émotions, du coup.
Exactement. Et étonnamment, en fait, donc l'aînée, elle s'est retrouvée au milieu d'une... Elle s'est fait harceler scolairement quand elle avait 8 ans, je crois.
Ah ouais, tôt, vachement tôt.
Tôt, oui, vraiment. Très bon matériel, si tu veux. Tu vois, ma fille est née pour se faire bolos par des gens, d'une manière générale. Et en fait, elle s'était retrouvée chez une psy à 8 ans, suite à ça. Et en fait, ça lui avait déjà, ça l'avait déjà énormément ouvert à plein de choses, quoi. Et moi, de mon côté, avant ça... J'avais commencé à me mettre un peu à la méditation, enfin, tu vois, parce que c'était plutôt pour dans des idées de gestion du stress, parce que j'étais énormément stressé avec mon boulot, ma boîte.
C'était un peu la tendance de chef d'entreprise de faire de la méditation en ce moment-là.
Mais c'était il y a longtemps, quoi, tu vois, genre 2014, 2015. Et ça m'avait déjà donné un premier aperçu. La thérapie a ouvert des portes que je ne m'étais jamais autorisé à ouvrir. Et je me rends compte, tu vois, et là, ça fait maintenant 5-6 ans, je me rends compte à quel point ce qu'on disait en fait au départ, c'est que tu finis par projeter sur les autres tes propres peurs, tes propres émotions, enfin tout quoi. Et que ça, en termes de parentalité, c'est un casse-tête très très compliqué à résoudre en fait.
En fait, je crois qu'il faut accepter que de toute façon, nos enfants finiront aussi en thérapie. Parce qu'en fait, t'as beau commencer à faire une introspection plus tôt, finalement, il n'empêche que toutes les émotions et toutes les choses que tu vis, toutes les choses qui sont ancrées en toi, vont pas s'envoler du jour au lendemain et resteront ce que tu es, en fait. Mmh. En tant que parent aussi. Et donc, tu le transmets indéniablement. Si tu veux, moi, je suis une grande fan de thérapie aussi et de tout ce qui a trait, justement, à tout ça, parce que je trouve ça hyper important. Moi, ce que je trouve flippant, en revanche, c'est quand tu découvres tout ça, de se dire, en fait, je lui transmets quand même, quoi. Même si tu le sais, tu transmets, tu vois, ce genre de choses. Et ça, je trouve ça flippant parce que tu sais ce que tu as ressenti toi quand tu commences à connaître les émotions. Et te dire, OK, potentiellement, mon enfant va ressentir ça. Et tu dis, mais je veux pas. En fait, l'amour est tellement fort que tu veux pas qu'en fait, ton enfant ressente des choses aussi terribles, finalement, qui peuvent te détruire, enfin, plus ou moins, et te faire très, très mal. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on tait les émotions, qu'on dit aux enfants de ne pas pleurer, parce qu'en fait ça nous fait trop mal de les voir avoir mal.
Bien sûr. Alors que le fait d'avoir mal fait partie de l'apprentissage. Tu ne peux pas être joyeux si tu n'es pas triste. Tu ne peux pas ne pas avoir mal si tu as mal. Enfin, si tu n'as pas mal, pardon. C'est un vrai chemin. Et en fait, j'ai fait la paix avec ça très récemment, où on a mis en place une thérapie de coparent avec mon ex pour travailler là-dessus justement.
Ouais.
Enfin, travailler sur, d'une manière générale, pour travailler sur notre relation à nos filles. Et on a fait ça avec la psy de ma fille qui est OK sur le sujet et tout. Enfin, tu vois, ma fille est assez OK. Parce qu'on a commencé en faisant des débriefs avec elle. Tu vois, on avait des débriefs tous les 2-3 mois de comment se passe la thérapie pour elle, etc. Et on a commencé le sujet dans ce genre de débrief, quoi. La psy m'a dit un truc qui, d'un coup d'un seul, m'a fait prendre conscience, réaliser que de toute façon, j'arriverai jamais à sauver mes filles. Mais c'est-à-dire que je le savais intellectuellement, hein, tu vois. Mais là, d'un coup d'un seul, émotionnellement, il y a un truc qui s'est aligné. Je me suis dit, oh, OK, ça m'a allégé. Ça fait un mois et demi. J'ai l'impression qu'en fait, c'est bon. Je n'ai plus besoin de sauver qui que ce soit. J'étais beaucoup, tu vois, dans ce truc de faut faire en sorte de sauver les gens, de... Et en fait, non, c'est pas grave. Et en fait, j'ai juste décidé d'être qui je suis avec mes filles et que l'amour que je vais leur envoyer, la transparence que je vais leur envoyer, tout ce que je vais pouvoir être en tant que personne, ouais, va juste leur filer des clés ou pas. Et en fait, ce sera elles qui feront leur chemin par rapport à ça. Mais ça m'a changé la vie. Et je dis ça, je me rends bien compte que c'est vraiment... Alors voilà, la petite recette pour machin. Mais non, c'est juste, c'est un travail.
C'est ce que j'allais dire.
Qui date de... Tu vois,
c'est un cheminement 5, personnel.
Plus la façon dont mes filles, mon ex, notre divorce, etc. Tout ça s'est mis en place à un moment donné où tu as un puzzle qui prend forme de plus en plus. Et c'est marrant parce que vraiment, ces derniers mois, j'avais vraiment l'impression que je commençais à réussir à mettre des pièces, tu vois, de plus en plus évidentes dans un puzzle où les pièces étaient éparpillées auparavant. Je les voyais bien, je me disais, je ne sais pas comment faire pour tout remettre. Et là, d'un coup d'un seul, il y a vraiment un truc qui s'est aligné où j'ai eu l'impression de me dire, OK, je crois que j'ai compris comment être serein dans la vie. Voilà, c'est si simple que ça.
Écoute, merci. Hein,
allez, bonne journée, au revoir.
C'était gentil. Voilà, vous avez la solution pour être serein dans votre vie. Ouais, mais en même temps, ce n'est pas si simple que ça. C'est combien d'années de travail, tu vois?
5 ans, et en fait, avant ça, c'est même pas... Enfin, tout ce que j'ai pu vivre auparavant. Donc en fait, en gros, j'ai 44 ans. C'est 44 ans de travail, de pétage de gueule, de prise de pied dans le tapis, de vie, de réfréner les émotions de mes filles, de réfréner mes propres émotions, de finir par comprendre qu'en fait, je peux les vivre et qu'en fait, quand je les vis, je suis là, « Ah non, c'est beaucoup trop pour... !»
Ça fait
on peut en mettre moins, ouais, finalement. Et en fait, de faire cet ajustement-là, de réussir à percevoir des trucs grâce à la thérapie que les autres autour de moi ne voient pas, d'avoir envie de leur transmettre ce truc-là, parce qu'en fait, moi, ça a changé ma vie, mais eux, ils ne sont pas prêts. Donc, en fait, ce n'est pas très grave, ce n'est pas leur moment. Mais toujours à un moment donné, tu es là, je vais te montrer comment faire, ça va aller beaucoup mieux. Mais non, ce n'est pas le moment, en fait. Donc, juste lâche, tu vois. Et le truc le plus dur pour moi, c'était mes filles, quoi, tu vois. C'est-à-dire, en tant que bon père, parce qu'en fait, je crois que je veux tout faire pour être un bon père, un mec bien, et c'est un truc aussi auquel je m'accroche, tu vois, que je m'identifie. C'est pareil, ça, je l'ai mis de côté. En fait, pour moi, je veux plus juste être un mec bien, je veux juste un mec bien, un père bien, tu vois. Je veux juste être le meilleur gars possible, tu vois, pour elle. Et puis, on verra bien, quoi.
Oh, c'est beau.
C'est je ne sais pas si c'est beau, mais en tout cas, c'est mon
non,
chemin.
Mais si, c'est vrai. Et ce côté vouloir avoir tendance à vouloir, quand toi, tu découvres, quand tu as un peu la lumière qui s'allume, à vouloir à l'allumer la lumière de tout le monde,
bien
du
sûr.
Coup. Je trouve que c'est dur à réfréner en tant que personne de vouloir aller justement... mais regarde, tu as envie de secouer les gens, de dire mais oui. regarde l'intérieur de toi. Mais en fait, ce n'est pas possible parce que toi, c'est arrivé à un moment. Il y a eu un élément déclencheur qui a fait que ça a été...
Bien sûr.
Enfin, je veux dire, 10 ans avant, ça n'aurait pas été possible bien parce sûr. Que tu avais ouais. eu cet élément déclencheur-là. Ouais. Tu veux nous parler de l'élément déclencheur ?
De quoi tu veux que je parle ?
Mais j'en sais rien. Est-ce que ce côté de se reconnecter aux émotions et donc du coup forcément accepter les émotions de tes filles, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur
ouais,
pour ça ?
En gros, j'ai eu droit à mon balance ton port personnel qui arrive un an avant le vrai balance ton port en 2016 où j'ai droit à, je ne sais pas d'où ça vient, mais en gros un compte Twitter anonyme publie des témoignages anonymes qui expliquent que le patron de Mademoiselle, donc ça me vise directement, tu lis les trucs, je suis la pire ordure du monde, quoi, tu vois, à des millénaires de mes valeurs, de qui je suis. Donc en gros, j'harcèle sexuellement mes employés, je les harcèle moralement, je vire les femmes enceintes, je les oblige à faire le ménage dans la boîte, enfin bref, c'est des trucs complètement ouf. Et d'un coup d'un seul, Internet voit que c'est écrit, qu'il y a des gens qui disent ça, et ça devient la vérité. Et moi, mon premier réflexe, quand je lis ça, je me souviens très bien, 21 septembre 2016.
Il y a des dates qu'on oublie
22h30,
pas comme
ça. Je découvre ce truc-là, je suis au restaurant et tout, machin. Mon premier réflexe, c'est de me dire, je vais aller me foutre sous un métro. Quel est l'intérêt de... J'ai tenu ce projet à bout de bras pendant des années, tu vois, pour faire en sorte qu'il devienne le je sais pas, une forme d'entité qui va permettre de pouvoir sauver. On y revient. La gente féminine, parce qu'en fait, je crois aussi que j'avais ce truc-là en moi, tu vois, je m'en rends compte aujourd'hui avec le recul, mais qui va pouvoir aider les meufs à sortir de leur carcan, etc. Et puis, en fait, on me renvoie ça au visage. Et d'un coup d'un seul, tout l'Internet, plutôt que de me poser la question de et au fait, comment ça s'est passé pour toi ? Non, je me fais clouer au pilori. Et en fait, tu vois, je dis pas que j'ai été un bon patron, hein. J'ai démarré Mademoiselle quand j'avais 28 ans. J'ai appris en marchant, j'ai fait plein de conneries, mais en fait ça a jamais été j'ai jamais été malveillant avec qui que ce soit, c'est pas mon objectif, quoi, tu vois. Moi j'ai pas monté ma boîte parce que j'ai eu des profs qui ont pas été sympas avec moi et que je voulais avoir des gens sur qui taper, quoi. Ça a jamais été mon but. Après oui, j'ai fait plein d'erreurs, mais en fait que le patron qui a jamais fait d'erreur me jette la première pierre, quoi, tu vois. Et en fait, si ces gens là qui avait envie de balancer ce truc-là, était venu me voir pour me dire en fait, on a des griefs contre toi parce que tu t'es comporté comme un sale con avec nous. Je crois que je me serais excusé déjà pour commencer, et puis j'aurais essayé de comprendre, et puis j'aurais essayé de progresser, quoi. Mais non, apparemment, ce n'était pas leur objectif, tu vois. Leur objectif, c'était juste de me dézinguer, ce qu'elles ont plutôt pas trop mal réussi à faire, quoi. Et ça m'a amené. Pendant un mois, je me suis retrouvé. Pendant un mois, j'étais là. Non, mais t'inquiète pas, je vais y arriver. Alors qu'à l'intérieur, j'étais flingué.
Tu voulais pas aller voir ces émotions, finalement.
Mais non, c'était. Quelle horreur ! Quelle horreur ! C'était horrible. Et puis surtout, l'image qu'on me renvoyait de moi, c'était tellement à l'opposé de qui j'étais. Et d'un coup d'un seul. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'au fil de l'eau, tu finis par te dire : mais est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose ? Est-ce que j'ai vraiment harcelé sexuellement, harcelé moralement ? T'as pas l'impression. Enfin, moi, j'ai pas l'impression. J'ai jamais fait ça, quoi, tu vois ? Je crois pas. En tout cas.
Ouais. T'en arrives à te poser la question.
Bien sûr.
Et c'est ce que tu disais, tu vois, là, juste avant que je te pose cette question-là, tu disais que ça t'avait. Enfin, toute la thérapie, tout ça, t'avait réconcilié avec le fait d'être un mec bien, d'être un bon père. Et finalement, c'est cette image-là qui est gratinée à ce
Exactement.
Moment-là.
Exactement. C'est qu'en fait, bien sûr qu'il faut arrêter de s'accrocher à ce genre de truc, en fait, parce que. Ça t'amène à... Je crois que mon objectif, en fait, et ce qui fait que j'ai reçu ça dans la gueule, c'est qu'en fait, à un moment donné, j'ai sans doute voulu sauver des gens malgré elles ou malgré eux, quoi, tu vois. Et ça, c'est une énorme erreur. Et en fait, si je pouvais avoir ces gens-là aujourd'hui, je m'excuserais auprès d'elles, quoi, tu vois, parce que ça n'a jamais été malveillant, en fait. Et tu vois, j'avais créé une boîte, j'avais créé une entreprise où la culture était tellement ouverte, tu vois, que j'avais la sensation qu'on pouvait venir tout me dire, tu vois. Et bah, effectivement, quand il y avait des gens dans l'équipe qui n'étaient pas d'accord avec moi, elle me le disait ou ils me le disaient. Et en fait, à aucun moment, je leur tirais dessus ou je les virais ou quoi que ce soit. C'était... Moi, j'adore ça. Je suis plutôt dans le partage et dans... OK, tu as la sensation que mon idée n'est pas bonne. Explique-moi pourquoi. Moi, je suis prêt. J'ai des arguments. Toi, tu en as sans doute. En fait, on va faire en sorte de faire progresser le truc. Mais ce n'est pas aussi évident que ça, quoi.
Tu vois, tu parles de... Moi, j'aime beaucoup faire des parallèles entre l'entrepreneuriat et la parentalité parce que je pense que c'est... vraiment très très similaire. Tu disais là à l'instant, s'ils étaient venus te voir en disant je suis pas d'accord avec cette idée, ok, mais s'ils étaient venus te parler d'émotions, est-ce que tu penses que tu aurais été capable de les entendre? Tout comme si tes filles avant tout ce travail là étaient venues avec toi en disant je ressens telle émotion, est-ce que tu l'aurais accepté?
Pas. En fait, tu sais sans doute que je regarde le mec que j'étais il y a 10 ans avec un tout autre regard que ce que j'étais, vraiment fondamentalement. Peut-être que j'étais fermé au possible. Peut-être que, je sais pas, je t'avoue que je ne sais plus qui j'étais parce que l'autre truc dramatique de tout ça, c'est que je me rends compte que j'étais énormément dissocié. C'est-à-dire que j'étais pas vraiment qui j'étais au fond de moi, quoi. Et puis tu rajoutes à ça le stress, la gestion d'une boîte de 20, 25, 35 salariés, c'est beaucoup de prise de tête, quoi, tu vois. Donc non, oui, t'as raison, peut-être pas. Peut-être pas.
Tu vois, c'est...
dur à dire.
Avec tu peux pas dire avec des si on peut tout faire. Hein, tu vois, ce que j'entends, tu vois, c'est vraiment dissocier les actes et les idées et défendre une idée plutôt et parler d'une émotion, c'est quand même vraiment différent, tu vois. Tout comme quand un enfant va venir te dire ah j'ai fait une bêtise, tu vas parler de l'acte, mais tu vas pas parler de comment il s'est senti quand il a fait ça, tu vois. Et peut-être qu'en fait tu pourrais plus l'entendre de savoir le pourquoi vraiment au fond. Pourquoi il a fait cette bêtise, tu vois, éventuellement.
Bien sûr.
Qu'est-ce qui l'a mené à ça? Et c'est ça qui est intéressant, au final. Ouais, c'est pas la finalité. On s'en fout que les enfants versent leur verre d'eau à foison. Enfin, de pourquoi ils le font. Il y a plein de raisons de pourquoi ils le font, tu vois. À la base, c'est marrant parce qu'en fait, je t'avais contacté il y a longtemps pour un sujet particulier. Finalement, on ne l'aborde pas. On ne l'aborde pas parce que je pense qu'en fait, la réponse, on l'a un petit peu. C'est quelque chose qui vient en fil de l'eau et c'est quelque chose de... qui se construit autour et voilà. Je t'avais contacté à l'époque parce que tu as sorti un épisode sur Histoire de Daron où tu parlais de ta première fille qui avait demandé à être internée dans un hôpital psychiatrique parce que voilà, elle était au bout, qu'elle en ressentait le besoin. On parlait d'émotion. C'est quoi l'émotion qui te traverse à ce moment-là?
Je suis en colère contre elle.
Ah ouais.
Sur le moment. Je suis en colère parce que en fait, mais je suis en colère contre moi. Je suis en colère contre elle parce que je me dis mais ok, donc c'est vraiment le seul truc que tu as trouvé. Je me rends compte à quel point c'est idiot avec le recul, mais bref, c'est mon chemin et je vais être le plus transparent possible. Mais en fait, ouais, pour moi, c'est une défaite qu'elle aille en hôpital psychiatrique. Et spoiler, hein, pas du tout. Au contraire, c'est extraordinaire. Et en fait, ce qui est génial dans ces podcasts et dans les réseaux sociaux, c'est que quand je publie mon post, je crois que je l'exprime un peu, tu vois, et j'exprime à quel point c'est terrible et c'est dramatique. Et en fait, t'as pas fait des enfants pour les amener en hôpital psychiatrique un jour, quoi, tu vois, et que tu pars toujours du principe que ça va pas t'arriver à toi, quoi.
Et puis tu feras mieux que les autres. Tu vois ce que tu disais.
Ce fameux truc de tu feras mieux que les autres. Et en fait, le nombre de messages que j'ai reçus derrière de jeunes femmes et de jeunes mecs qui m'ont dit que eux, ils étaient aussi passés par là quand ils étaient plus jeunes. Et que c'est génial qu'elle ait eu l'espace pour pouvoir exprimer le fait qu'elle avait envie d'y aller et que nous, qu'on la laisse y aller. Ça prouvait qu'en fait, on s'en était pas si mal sortis. Et alors, ce n'est pas encore une fois pour avoir la médaille, quoi, tu vois, mais c'était hyper intéressant de se dire, quand tu fais un pas de côté, en fait, d'un coup d'un seul, ce n'est pas aussi dramatique que ce que ça en a l'air. Et en gros, le simple fait qu'elle puisse venir demander de l'aide, c'est génial, quoi. Mais sur le moment... pas du tout.
Ouais.
Moi, je suis juste en colère contre elle parce que elle demande ça. Moi, sur le moment, j'ai une semaine ultra chargée ici à Paris, donc elle va à l'hôpital à Lille. Et tu vois, j'ai mis une demi-journée et la nuit, tu vois, avant de me dire le lendemain matin de me réveiller, de me dire, ok, t'annules tout, tu dégages tout, et en fait, tu vas la voir. Mais avant ça, j'étais tellement en colère que. Non, en fait, je m'en foutais. J'étais là, putain, mais j'ai une journée. Comment je vais faire pour réussir à tout goupiller, à tout machiner? Et en fait, quand est-ce que je vais la voir? comment ça va se démerder, je ne sais même pas les horaires, etc. etc. Mais non, en fait, j'ai juste, le lendemain matin, je me suis dit, mais mec, t'es à côté de la plaque. C'est le moment où ta fille, elle a besoin de toi. Et en fait, toi, t'es juste en colère avec toi-même. C'est ta propre colère que t'as par rapport à toi. C'est ta propre colère que t'as vis-à-vis d'elle. Mais en fait, t'es surtout en colère par rapport à toi-même. Parce que bah, t'as échoué, quoi. T'es pas un bon papa. Ce fameux truc de bon papa, bah, tu peux le foutre et tu le fous à la poubelle. C'est à chier, vraiment. Et je sais que mon ex, leur mère, était dans le même état aussi, tu vois. Elle était vraiment dans ce sentiment d'échec, très dur. Je me réveille le lendemain matin, j'ai annulé tous mes rendez-vous, j'ai pris le premier train pour aller à Lille. Et en fait, le soir même, pendant l'ouverture des visites, tu vois, j'étais là pour aller la voir, quoi. Et j'y suis allé tous les jours de la semaine, entre 17h et 18h, au moment des visites, prendre soin d'elle, prendre des nouvelles d'elle. Et je crois que c'était ça aussi qu'elle attendait, tu vois, à ce moment-là. Elle attendait de voir si moi j'allais, enfin, si nous on allait bouger, si nous on allait être OK, si moi de mon côté j'allais me sortir les doigts pour aller la voir. Et en fait, ça a totalement changé notre relation, à tout jamais, je crois, cette semaine-là.
C'est un peu comme, c'est une sonnette d'alarme, en fait, qu'elle a tirée à Bien ce sûr. Moment-là. Pour elle, mais aussi peut-être pour alerter et dire.
Par okay. rapport à la relation.
Ouais. Bien complètement. Sûr. Et en quoi ça a changé, ta relation aujourd'hui avec elle ?
Bah déjà, moi de mon côté, j'ai vraiment mis de côté ce truc de bon père, je crois, maintenant. Tu vois, ça m'a vraiment définitivement dit, OK, en fait, l'important, c'est juste elle, qu'elle aille bien. Et en fait, à un moment donné, l'étiquette que tu veux te coller, toi, de « moi, je suis un super papa, je m'en sors trop bien, regardez !» Pas du tout, en fait. En vrai, regarde-toi. T'as pas du tout été présent pendant... on va dire, 10 dernières années. J'exagère. Non, si, c'est 9... Oui, 8, 9, 10 dernières années, quoi, tu vois, où tu étais là on and off, tu étais là le week-end. Alors certes, tu t'es occupé d'elle, mais en fait, dans le quotidien, tu n'étais pas présent. Enfin, il faut à un moment donné regarder les trucs en face. Ouais. Quoi. Et ma deuxième fille, quand je suis parti à Paris, elle avait 4 ans. Et en fait, entre ses 0 et ses 4, je m'en suis beaucoup occupé, mais elle n'a plus aucun souvenir. Et ouais. En fait, elle m'a dit, pas l'été dernier, mais l'été d'avant, je me souviens très bien parce qu'elle était dans la voiture, on était sur la route des vacances et en fait, elle me regarde dans le rétro, elle me dit « Mais tu sais, papa, je me souviens plus de toi quand t'étais là. »
Bim.
Grosse claque ouais. dans la gueule.
Et ouais.
Et bien sûr qu'elle s'en souvient plus. Mais pour moi, en même temps, ça a été ultra marquant ces 4 premières années parce que j'ai été beaucoup là avec elle, à m'occuper d'elle. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, quoi, tu vois. Mais elle se souvient plus de rien. Donc, ça m'a aussi ramené à ce truc de il faut que tu recrées la relation, quoi. Donc, c'est un peu mon travail, entre guillemets, avec elle, sans vouloir la sauver, mais juste à me dire comment je peux faire pour recréer un lien avec elle. Et elle a 13 ans, et en fait, elle est dans un âge compliqué, quoi, tu vois, 13 piges. Et d'un autre côté, ça me fait dire aussi que, tu vois, il y a 2 ans, avec Lina, on sortait du divorce tout juste, quoi, tu vois. Et la relation était très, très compliquée. Et qu'on a fini par s'en sortir plutôt ouais. pas trop mal, quoi.
Mais oui, c'est pas facile parce qu'en fait, elle se construit en tant que personne aussi, enfin, à cet âge-là. Et ça, t'y es pour rien. Enfin, je veux dire, il y a une partie de toi qui influe, certes, mais il y a une partie où en fait, c'est hors de. Enfin, non, c'est pas une partie. Tout est hors de ton contrôle. Bien tout sûr. Est hors de tout ça, mais qui n'a rien à voir avec toi.
Exactement.
En fait.
Mais c'est super dur. Et tu disais avant qu'on commence à enregistrer que t'avais beaucoup de jeunes parents. Qui écoutait ton podcast. Et en fait, je crois que l'un des trucs super, là, tu vois, donc par exemple, on se voit très peu. Elle vit à Lille, donc moi je suis à Paris, on se voit un week-end sur deux. Et d'un autre côté, c'est dur pour moi parce qu'en fait, elle me manque, tu vois, parfois physiquement, où j'ai besoin de les toucher, j'ai besoin de leur faire des câlins et tout, de leur dire je t'aime. Mais je crois aussi que c'est génial parce que ça prépare la vie d'après,
ouais.
qui va c'est-à-dire arriver que, super ouais. vite.
Alors que toi, c'est sûr que tu es plus préparé que ton ex-femme, pour le coup, qui les ouais. a au quotidien, tu vois.
Mais c'est un vrai sujet ouais. dont on discute ensemble.
Mais préparer le départ des enfants, alors j'ai encore jamais eu l'occasion d'en parler, mais j'y pense souvent, mais ça doit être quelque chose en vrai. Ouais. Quand tu passes 18, 20 ans de ta vie à centrer un peu ton monde autour de tes enfants et que d'un coup, ils ne sont plus là, quand tu as pas eu autre chose à côté, tu vois ouais. ce que je veux dire ? Ça doit être vraiment dur.
Ouais, et puis tu vois, là, on est séparés. Enfin, tu vois, l'idée, c'est est-ce qu'on se retrouve quelqu'un dans nos vies et ce quelqu'un-là, comment il va venir s'imbriquer par rapport à tout ça ? Enfin, c'est des vraies ouais. questions. Hein.
C'est ça. Parce que quand bien même, il n'y a plus de relation amoureuse, il y a une relation et Enfin, tu vois, je sais pas si tu as connu ça, enfin, vous êtes mis ensemble super jeune, et moi, tu vois, par exemple, j'ai eu des histoires avant mon mec, et en fait, en soi, ben, c'est des histoires qui m'appartiennent, mais qui le regardent pas, tu vois, lui, parce qu'on n'avait rien en commun.
Ouais.
Alors que demain, si on devait se séparer, ben, en fait, dans tous les cas, il ferait partie de ma vie, tu vois,
c'est
parce
obligé.
Qu'on a un enfant.
Enfin, j'espère pour ton enfant, en fait.
Oui,
tu vois, c'est
oui,
ça
non,
le
mais...
truc, c'est qu'en fait,
oui.
t'es pas obligé de.
T'es pas obligé.
De garder un lien avec ton ex, mais c'est quand même mieux, quoi.
Voilà. Mais donc, du coup, pour la suite. Les relations qui viennent après, c'est un vrai sujet, quoi. Il faut accepter. On t'apprend pas à accepter le passé des gens généralement, tu vois.
C'est vrai.
Ouais, je trouve. Mais tu vois, je te donne l'exemple, tu vois, hyper concret de quand j'ai rencontré mon mec. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de nos ex.
Bien sûr.
De nos histoires d'avant. Et en fait, quand j'en parlais à des copines ou quoi après, elles me disaient mais pourquoi t'abordes ce sujet-là, genre. Mais ça touchait une grosse insécurité et c'est vrai que ça surprenait énormément le fait que moi j'implique, enfin que j'intègre ce passé-là. Qui était important parce qu'il m'avait construite
ça
moi.
Ça fait partie de ton histoire.
Ouais, mais tu vois, aux yeux de beaucoup, ça veut dire ben, que tu as encore des sentiments, ou que tu as ceci, ou que tu as cela. Et en fait, finalement, on te demande d'effacer un peu des choses qui ont existé de ta vie quand tu commences une nouvelle relation, alors qu'en fait, tu peux pas.
Mais en fait, bien sûr que moi, j'ai encore des sentiments pour mon ex, tu vois. Et je crois que, en fait, le simple fait de venir dire que tu n'as pas de sentiments pour un ex avec qui tu as pu avoir une histoire un peu longue et un peu significative, quoi. C'est encore une fois mettre de côté les émotions. Alors c'est pas le grand amour, c'est plus le même amour, l'amour change à toute vitesse. D'ailleurs je le vois très bien avec mon ex, on a plus, moi j'ai toujours énormément d'amour pour elle, mais en fait c'est pas le même que quand on était ensemble, quoi. C'est évident.
Ouais, mais tu vois, je trouve, mais tu as raison, c'est un rapport avec l'émotion, avec les émotions de manière générale, qu'on minimise ces émotions-là, tu vois. Tout comme on va minimiser une rupture amoureuse d'une adolescente ou d'un adolescent, tu vois. On va dire, ouais, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Alors qu'en fait, ces ruptures-là, elles peuvent être aussi
bien
hyper
sûr.
Fondatrices.
Ah bah,
quoi.
Oui.
Mais on les minimise un peu trop.
Bah, c'est Lina qui racontait qu'on a fait un épisode ensemble. Je sais pas si tu as entendu l'épisode où on est ensemble, où on parle justement de notre divorce, etc. On
c'est,
a fait un épisode
pas.
De l'histoire de Daron, où l'épisode 100, justement, tu vois, on a profité pour faire un peu le point sur... La vie après le divorce.
Si, je l'ai écouté, oui, oui.
Et tu vois, elle raconte, en fait, l'un de ses premiers trucs qu'elle nous a dit après quand on leur a annoncé la séparation, c'est qu'on leur a dit qu'on s'entendait très bien. Et en gros, elle nous a dit, donc, c'était il y a 2 ans, elle avait 13 ans, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi vous vous séparez alors que vous entendez encore bien, restez ensemble. Et tu vois, on n'essaie pas du tout d'avoir ce genre de réponse un peu toute faite. Mais là, je lui ai dit, écoute, je suis désolé, mais on va juste te dire, tu comprendras quand tu seras plus grande, quoi, tu vois. Parce que je crois que tu n'as pas de prise par rapport à ça pour comprendre ce que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'en fait, on s'entend encore très bien, mais qu'on n'est plus amoureux. Et l'un des problèmes aussi de la langue française, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mots pour désigner l'amour, tu vois. Et c'est marrant parce que dans cet épisode, on revient sur cette histoire et elle me dit, en fait, j'ai compris. Parce qu'en fait, moi, j'ai vécu la même chose.
Ouais.
D'un coup d'un seul, à 15 piges, j'ai pris des claques dans la gueule. Et en fait, je comprends ce que ça veut dire d'un coup d'un seul la relation amoureuse. Quoi.
Ouais.
C'est ah bah cool, ça fait partie de ton expérience aussi. Quoi.
C'est ça. Mais en même temps, c'est un peu ça, de se dire, tu comprendras quand tu seras plus grand ou quand tu l'auras vécu. Enfin, je veux dire, tout comme des non-parents ne peuvent pas forcément comprendre ce que traversent des parents parce
bien
qu'ils
sûr.
Le vivent pas. Et dans toutes les situations, c'est exactement la même
bien
chose.
Sûr.
Voilà un peu valable, moi, je trouve, cette phrase. Tu comprendras quand tu seras plus grand.
Ouais, mais en fait, c'est une phrase un peu fourre-tout. Et je
ouais.
comprends que quand tu es de l'autre côté, en fait, c'est très frustrant
c'est
parce
frustrant.
Que tu n'as pas envie d'entendre ça. Et tu vois, j'essayais de lui expliquer. Enfin, on essayait d'ailleurs avec mon ex de lui expliquer ce que ça faisait, en fait. Et que c'était juste, on n'avait plus envie d'être. Enfin, tu vois,
ouais.
on s'entendait super bien, on se connaît depuis tellement longtemps et tout. Mais juste, on n'a plus envie d'être amoureux. On a juste envie de vivre notre vie.
Mais c'est dur de mettre des mots sur des sentiments, tu peux pas.
Oui.
Les sentiments, c'est fait pour être ressenti, pas pour être expliqué.
Bien sûr.
Donc c'est ça, en fait,
bah,
le truc.
Elle a fini par prendre dans la gueule sa propre porte et ça lui a appris, quoi.
Ouais. Écoute, merci beaucoup. On arrive à 1h19 d'échange.
Ah ouais,
eh, okay, pas mal, hein, belle perf. Je te remercie beaucoup, Fabrice, pour cet échange.
Bah, merci à toi.
Bah, si on veut suivre ton travail, où est-ce que ça se passe? Où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes productions?
J'ai un site web qui s'appelle fabflorent.com, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, où je mets tous mes liens. Vous pouvez avoir ma chaîne YouTube, mes podcasts, etc. etc. quoi. Donc voilà, mes réseaux sociaux.
Bah, je vous recommande vraiment d'aller... écouter ton contenu, parce que j'écoute pas
merci.
Tout, parce qu'en fait, il y en a beaucoup.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est hyper qualitatif et ça permet de réfléchir. Et je vous le conseille, je vous le recommande vivement.
Merci beaucoup, Elise.
À bientôt.
Salut.
Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu. Alors file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, tu vas en mettre 5, hein, et tu écris ce que tu veux dans la section Avis. Par exemple, le 30 novembre 2021, Dane 19, que je remercie chaleureusement au passage, écrivait « Excellent podcast, plein de bienveillance et d'informations utiles autour de la maternité, mais pas que. » Trop sympa, non ? Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, partager le podcast sur tes réseaux sociaux, bref, faire en sorte qu'il soit connu du plus grand nombre. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.